Maïwenn Bordron présente le journal des Amériques et d'Haïti. Maïwenn, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous et bienvenue. Au sommaire de cette édition, Donald Trump qui limoge son ministre de la Justice, Jeff Sessions. Première décision du président américain au lendemain des élections de mi-mandat. Autre décision hier, la Maison-Blanche a suspendu l'accréditation d'un journaliste de CNN. Nous analyserons les réactions dans la presse américaine. Au Nicaragua, la contestation ne faiblit pas. Une large partie du pays réclame toujours le départ du président Daniel Ortega. Plus de 320 personnes ont trouvé la mort depuis le début du conflit il y a 7 mois. Reportage à suivre à Managua, la capitale. Nous prendrons ensuite la direction du Chili où un avion de l'armée chilienne a décollé hier avec 184 Haïtiens à son bord. Premier voyage réalisé dans le cadre d'un plan de retour volontaire. Objectif, permettre aux personnes les plus en difficulté de rentrer chez elles. Des retours dont parle la presse haïtienne aujourd'hui comme tous les jeudis. Nous serons en ligne avec le rédacteur en chef du Nouvelliste. Et on commence cette édition par la revue de presse des Amériques avec vous, Arim Lipol, bonjour.
Bonjour Maouen, bonjour à tous.
Arim, à la une, le départ forcé du ministre de la Justice américain Jeff Sessions.
Oui, le président américain Donald Trump a limogé hier Jeff Sessions, sa première décision politique après les élections de mi-mandat qui ont renforcé la majorité républicaine au Sénat, mais fait basculer la Chambre des représentants dans le camp démocrate. Alors, comment expliquer cette décision? Eh bien, pour le San Francisco Chronicle, le président a perdu la moitié du mur républicain sur lequel il pouvait compter pour le protéger d'une enquête du procureur spécial Robert Mueller concernant l'affaire des ingérences russes. Hier, Donald Trump, en se séparant de Jeff Sessions, déjà sur la sellette depuis qu'il s'était récusé justement de cette enquête, a commencé à se protéger lui-même, écrit le San Francisco Chronicle. Le New York Times, pour sa part, estime que le temps est déjà compté pour le procureur Mueller car il n'y a plus personne qui puisse le protéger.
Autre sujet, c'est Donald Trump qui s'en prend à un journaliste de CNN.
Ah oui, la vidéo de cette altercation survenue hier lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé est en effet inédit devant les caméras du monde entier. Donald Trump a qualifié le reporter de CNN, Jim Acosta, de personne mal élevée et horrible.
You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
Voilà, Jim Acosta, en fait, qui tentait de lui poser des questions sur la caravane de migrants venant d'Amérique centrale.
They're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion.
Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN.
Ouais, Donald Trump, qui auparavant avait qualifié le résultat des élections de mi-mandat de grande victoire, Maouen, eh bien, il n'a pas voulu répondre aux questions du journaliste qui abordait aussi l'affaire des ingérences russes et qui insistait pour obtenir une réponse en vain. Donald Trump lui faisait finalement retirer son micro.
That's enough. Put down the mic.
Voilà, cet incident est bien sûr à la une du site de la chaîne CNN qui, dans un communiqué, a défendu son journaliste et aussi la liberté de la presse.
La suite de cette affaire, Arim, le journaliste s'est vu retirer son accréditation à la Maison-Blanche.
Oui, une décision qualifiée d'inacceptable par la presse présidentielle américaine. Malheureusement, il fallait s'attendre à ce genre d'incident, écrit pour sa part le Washington Post, qualifiant l'attitude de Donald Trump d'autoritaire.
On prend maintenant la direction du Mexique. À Rim, environ 5500 migrants partis à pied le 13 octobre du Honduras sont arrivés à Mexico.
Oui, c'est un nouveau chiffre communiqué par la Commission des droits de l'homme mexicaine. L'objectif de cette caravane, rappelons-le, c'est d'atteindre la frontière américaine, c'est-à-dire sur le site d'information mexicain, Animal Politico. Le site publie un reportage sur l'accueil de ces migrants à Mexico dans un stade de la capitale. D'après un porte-parole de la caravane, les migrants vont décider dans les jours qui viennent quand et comment ils comptent poursuivre leur route vers les États-Unis. Il y en a qui préfèrent attendre un peu et d'autres qui souhaitent partir le plus rapidement possible, explique Rodrigo Abeja, qui lui soutient plutôt la première option. Il vaut mieux se reposer encore un peu et ensuite repartir ensemble comme une grande famille, dit-il.
Pour terminer, direction Brasilia, où l'équipe du président élu Jair Bolsonaro prépare la transition avant l'entrée en fonction au 1er janvier.
Oui, hier, Jair Bolsonaro et le président sortant Michel Temer se sont prononcés pour une transition en douceur. La composition du nouveau cabinet se précise d'ailleurs avec l'annonce que le futur ministère de l'Agriculture, qui intègre finalement celui de l'Environnement, sera dirigé par Teresa Cristina, une députée proche de l'agro-industrie, écrit le journal Correio Brasiliense. Au Globo publie aujourd'hui publie une interview avec le célèbre chanteur et compositeur brésilien Gilberto Gil. Il est plus optimiste que son collègue et ami Caetano Veloso sur l'avenir du Brésil, alors que Caetano Veloso, dans une tribune dans le New York Times, prédisait des temps sombres pour son pays avec l'arrivée de Jair Bolsonaro à la présidence brésilienne. Gilberto Gil, lui, estime que la vague conservatrice ne vaincra pas, c'est à lire dans le journal O Globo.
Merci Harim Lipol pour votre revue de presse et à noter cette information aujourd'hui aux États-Unis. On apprend que 12 personnes ont été tuées hier soir dans une fusillade dans le sud de la Californie. C'est le shérif du comté de cette banlieue de Los Angeles qui l'annonce. Il s'agit de 11 étudiants qui étaient réunis dans une discothèque ainsi que d'un policier intervenant sur les lieux. Le gouvernement nicaraguayen accusé de semer la terreur dans le pays. Dans son dernier rapport, Amnesty International dénonce une opération de, je cite, « nettoyage » menée par le gouvernement contre les manifestants. Au mois d'avril, un mouvement de protestation contre une réforme de la sécurité sociale s'est finalement transformé en contestation généralisée du pouvoir de Daniel Ortega. Depuis le début du conflit, plus de 320 personnes ont trouvé la mort. Mais malgré la répression, l'opposition au régime ne faiblit pas. C'est un reportage à Managua, la capitale de notre envoyé spécial, Alix Hardy.
Devant la prison pour femmes La Esperanza, à 40 km de la capitale Managua, les familles de détenus s'affairent. Le mardi matin, elles viennent déposer des vivres aux prisonnières. Mais ce jour-là, nouvelle règle, pour les provisions, plus le droit au sac bleu ou blanc, couleur du drapeau national, mais surtout du mouvement d'opposition. Daniel Esquivel, dont la femme est incarcérée ici, s'est vu refuser l'entrée de ses colis.
Les sacs bleus ne passent plus, c'est incroyable, on se croirait en Russie.
Ces derniers mois, plus de 3000 opposants ont été arrêtés au Nicaragua. À ce jour, plus de 500 dorment toujours en prison. Braulio Abarca est avocat au Centre nicaraguayen des droits de l'homme, le CENID. Il tient à jour le fichier des détentions.
Ça commence à 1 et ça descend jusqu'à 560. C'est le chiffre actualisé du jour, 560 détenus, dont plus de 400 jugés pour des délits comme le terrorisme, une appartenance au crime organisé, ça défie l'entendement.
Depuis le mois dernier, toute forme de manifestation de la part de l'opposition est interdite par le régime. Faire voler un drapeau national ou lâcher des ballons bleus et blancs dans la rue peut vous conduire en prison. Pour Braulio Abarca, ces arrestations en série sont une véritable stratégie de la part du pouvoir.
L'État est en train de criminaliser le simple fait d'exercer ses droits, comme la participation aux manifestations pacifiques, les sit-ins dans les universités ou simplement le droit à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux.
Les meneurs de la contestation sont particulièrement recherchés. Maître Minor Curtis est l'avocat d'Amaya Coppens, une leader étudiante belgo-nicaraguayenne emprisonnée depuis bientôt 2 mois. Il explique...
Criminaliser les leaders étudiants, c'est clairement une manière de faire peur aux gens pour qu'ils se limitent à une participation en criminalisant les leaders.
Comme de nombreux militants, Amaya a été arrêtée sans mandat. Elle est accusée de terrorisme, un chef d'accusation qui ne tient pas pour son avocat.
Cette accusation n'a aucune base légale, car la définition que donne notre code pénal du terrorisme n'existe pas dans le cas d'Amaya. Pour qu'elle soit terroriste, il faudrait qu'elle travaille ou bien qu'elle s'associe avec une organisation classée comme telle. Il y a un vrai schéma d'utilisation de cette accusation. Je connais plus de 20 cas de leaders étudiants de tout le pays accusés de terrorisme.
En juillet, le Parlement, contrôlé par le régime, a adopté à la va-vite une loi dite antiterroriste dont le texte très vague permet d'accuser n'importe quel manifestant de terrorisme, s'inquiétait alors l'ONU. En août, le président Daniel Ortega niait toute tentative de bâillonner son opposition.
Il n'y a pas de prisonniers politiques dans ce pays. Ceux qui sont détenus le sont pour leurs crimes, pas pour leurs idées ou pour leur activisme politique.
Le procès d'Amaya est annoncé pour décembre. Son père est belge et installé au Nicaragua depuis plus de 30 ans. Devant la prison où sa fille est détenue, il explique qu'il n'a que peu d'espoir concernant le verdict.
Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, elle va être condamnée parce qu'ils sont tous condamnés. Le pouvoir judiciaire ici n'a absolument aucune indépendance. Maintenant, la stratégie, c'est surtout de documenter toutes les failles du jugement pour pouvoir aller en appel devant une cour internationale.
La semaine dernière, pour le Dia de Muertos, le jour des morts, les Nicaraguayens se sont rendus en masse dans les cimetières pour fleurir la tombe des victimes de 6 mois de violence. Selon le CENID, la police a arrêté 17 personnes ce jour-là. Motif, avoir décoré les tombes de bleu et de blanc. Alix Hardy, de retour de Managua pour RFI.
Et selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme, 40 000 Nicaraguayens ont demandé l'asile au Costa Rica voisin depuis le début de l'année.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
À l'écoute de RFI, nous sommes en ligne avec France Duval, le rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour.
Bonjour.
France, le journal revient aujourd'hui sur les difficultés du gouvernement à boucler son budget. Le spectre des prix de l'essence qui était à l'origine des émeutes de juillet dernier revient le hanter.
Le gouvernement du Premier ministre Jean-Henri Serre ne va pas augmenter les prix des produits pétroliers sur le marché haïtien. Le gouvernement n'entend pas prendre cette direction, a déclaré avec force le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson Alexis, qui intervenait mercredi au nom du gouvernement sur les médias haïtiens. Cette sortie du porte-parole du gouvernement intervient alors qu'en début de semaine, le ministre de l'Économie et des Finances avait expliqué la taille du déficit budgétaire que l'État haïtien doit supporter pour financer la subvention des produits pétroliers. Depuis le 1er octobre, le gouvernement haïtien n'a pas pu présenter son nouveau budget pour l'exercice 2018-2019. Il est incapable de le faire. Les recettes fiscales et douanières ne sont plus garanties à cause de la contrebande aux frontières, de la subvention de l'électricité et de celle des produits pétroliers.
Et pendant ce temps, des Haïtiens reviennent du Chili. Le Nouvelliste en parle dans son éditorial du jour.
C'est avec la mine des mauvais jours que 184 Haïtiens ont regagné Port-au-Prince mercredi après avoir décidé de mettre un terme volontaire à leur aventure au Chili, pays qui était devenu une terre d'accueil pour des dizaines de milliers d'Haïtiens ces trois dernières années. Un avion des forces armées chiliennes a assuré gratuitement le transport des 184 Haïtiens qui ont tous accepté de ne plus tenter de regagner le Chili avant 9 années. Quand le paradis n'est pas le paradis et qu'en plus ce n'est pas votre pays, mieux vaut rentrer chez soi, a expliqué un des rapatriés volontaires.
Et ce n'est pas seulement une crise budgétaire et une crise migratoire qui mine l'administration du président Moïse.
Un mois et demi après son arrivée au pouvoir, le premier ministre haïtien Jean-Henri Serre va au devant de sa première crise. La majorité présidentielle dont il est issu réclame un remaniement ministériel en profondeur, tandis que le président de la Chambre des députés, Gary Baudeau, lance un appel au dialogue. Le président du bloc majoritaire, le député Jean-Wilson Hippolyte, menace de tourner le dos au pouvoir si les revendications de son camp ne sont pas satisfaites dans le plus bref délai. Le président de la Chambre des députés a quant à lui nuancé tout en allant plus loin dans ses demandes. Le président de la Chambre des députés plaide pour un dialogue inclusif et sincère.
Et que propose le président de la Chambre des députés?
Gary Baudeau, le premier des députés, croit que le dialogue politique qu'il demande doit être ouvert aux vrais acteurs de l'opposition radicale ou modérée. Pour le président de la Chambre des députés, il faut un dialogue pour garantir la stabilité politique, trouver un accord sur la conjoncture, un accord avec les forces de l'ordre sur l'insécurité, un accord sur le conseil électoral et la loi électorale et un accord sur le budget 2018-2019. Dans ce dialogue politique, rien ne doit être exclu selon lui. Le député croit aussi qu'il faut un accord pour réaliser le procès sur la dilapidation des fonds pétro-caribéens. Un mois et demi après l'arrivée du premier ministre Jean-Henri Serre au pouvoir, Haïti est à la recherche de nouveaux ministres et de nouveaux programmes de gouvernement.
Merci France Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Vous en parliez, 184 Haïtiens sont arrivés à Port-au-Prince hier. Ils ont décollé du Chili dans un avion de l'armée. C'était le premier voyage réalisé dans le cadre d'un plan de retour volontaire lancé il y a un mois par le gouvernement chilien. Sébastien Piñera, le président de droite de retour au pouvoir en avril, a pris une série de mesures administratives pour encadrer davantage l'immigration. Ce plan de retour était destiné en priorité aux immigrants haïtiens, car l'année dernière, ils étaient près de 100 000 à s'être installés au Chili. Justine Fontaine, notre correspondante à Santiago, a assisté à l'embarquement et au départ de ce premier avion.
À l'aéroport militaire de Santiago, le ministre de l'Intérieur en personne vient saluer les premiers candidats au départ. Il serre la main des passagers devant les caméras de télévision.
Comment ça va? Bonjour, enchanté. Je vous souhaite un bon voyage, un bon vol.
Dans la file d'attente, Evanson, 22 ans, explique qu'un ami lui avait promis qu'il trouverait facilement du travail au Chili. Mais après 2 ans passés ici, il ressent un profond sentiment d'échec et de déception.
Moi seulement, je veux seulement entrer dans mon pays et essayer d'y arriver à, à avoir d'autres projets, à voir comment je peux avancer dans ma vie.
Un peu plus de 1000 personnes se sont inscrites pour l'instant. Des personnes qui n'ont pas trouvé de travail stable, indispensable pour régulariser leur situation. Toutes ont dû s'engager à ne pas revenir pendant au moins 9 ans. Le ministre de l'Intérieur, Andrés Chadwick, explique pourquoi cette condition a été imposée par le gouvernement.
Parce qu'il ne s'agit pas d'une agence de voyage et parce que c'est 10 ans dans le cas d'une expulsion.
Pour les associations de migrants, il s'agit surtout d'une opération de communication. Et elle souligne qu'il est bien plus difficile pour les Haïtiens d'obtenir des papiers au Chili que de participer à ce plan de retour volontaire. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal des Outre-mer avec vous aujourd'hui, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Maïwenn.
Benoît, à la une, l'incendie qui a fait 6 morts en Guadeloupe dans la nuit du 30 au 31 octobre dernier et qui n'a pas été causé par un barbecue mal éteint.
C'est en tout cas ce qu'affirme le rapport d'un expert. Il affirme même que le drame pourrait donc avoir été provoqué par un tiers, volontairement ou involontairement, on n'en sait rien pour l'instant. Mais une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. Pascal Pétrine.
L'hypothèse du départ de feu lié à un barbecue, un temps évoqué, a été balayée par le rapport de l'expert incendie venu de la Martinique. Un départ de feu qui serait, selon lui, lié à une table en plastique située à l'opposé du barbecue, c'est-à-dire à gauche de la maison, collée sur un mur mitoyen sur laquelle était posée une, voire plusieurs bouteilles de rhum. Un incendie dont l'origine serait consécutive à l'intervention d'un tiers, volontairement ou pas, c'est l'enquête qui devra le déterminer. Et c'est justement pour faire toute la lumière sur cette affaire qu'une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet. Un magistrat instructeur a donc été nommé et devra poursuivre toutes les investigations qu'il jugera nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé et déterminer les responsabilités.
Les familles des 6 victimes de l'incendie, toutes de la même famille, rappelons-le, sont arrivées hier soir en Guadeloupe. Elles se sont rendues sur les lieux du drame. En Guadeloupe, toujours avec ses deux avocats, Maître Durimel et Maître Éric Vèvre, qui rencontreront demain les agriculteurs victimes de la chlordécone. Quelques semaines après l'annonce aux Antilles par le président de la République d'une éventuelle reconnaissance de certaines pathologies comme maladies professionnelles, les deux hommes de loi vont envisager les procédures à mettre en œuvre pour faciliter l'identification de ceux qui ont manipulé le pesticide. Maître Éric Vèvre, qui s'est occupé auparavant avant d'un autre dossier hélas très célèbre, celui de l'amiante, est au micro de Franck Aristide.
Il y a des personnes qui ont travaillé avant l'interdiction du chlordécone, il y en a d'autres qui ont travaillé par la suite. On n'est pas dans les mêmes situations selon qu'on a manié du chlordécone ou selon qu'on est sur des terres qui sont polluées au chlordécone. Donc il faut distinguer tout ça. On leur propose des choses sérieuses, des stratégies devant les juridictions administratives et d'autres devant les juridictions de sécurité sociale parce qu'on a une responsabilité de l'État. Et puis on a en même temps une responsabilité des employeurs, il faut le dire. Et donc on ne s'adresse pas de la même façon aux juridictions selon les cas de figure, selon les personnes que l'on veut viser dans ces procédures. Et c'est la raison pour laquelle on visera large, à la fois l'État pour ses responsabilités, mais également les employeurs.
Avec un calendrier qui pourrait avoir quelle allure ?
Un calendrier qui est assez resserré, un peu au pas de charge, mais qui en même temps nous amènera à nous poser de façon méthodique dans les prochaines semaines pour peser au trébucher les différentes stratégies judiciaires selon les différents cas de figure. Et donc revenir ici début janvier et lancer des procédures contentieuses au grand plus tard début mars 2019.
Maître Éric Vèvre au micro de Franck Aristide de la première Guadeloupe. Bon après-midi, Maïwenn. À demain.
Merci Benoît Ferrand, à vous aussi. Bon après-midi, c'est la fin de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Il était réalisé par Antonin Dulé. Merci à vous pour votre fidélité à la Radio du Monde et je vous dis à demain pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez retrouver l'essentiel de l'actualité sur notre site www.rfi.fr.